Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui attend l'apéro.
Ouais, c'est l'heure. Alors du coup, on va, je vous le dis tout de suite, le One Eye Club 37 va être rapide.
Parce pourtant, que... on a des sujets lourds. Hein.
Ouais, on a du lourd, mais franchement, on a envie de l'apéro. Il est tard.
Là, voilà, on a des amis qui nous attendent au bord de la piscine. C'est un peu difficile. Surtout en ce mois d'août. On est le 7 août. Ouh là là, qu'est-ce qui fait chaud, hein. C'est fatigant tout ça. Et donc, je suis avec Thio.
Et tu es toujours le One Eye Pied.
Voilà.
Et on est toujours parler... dans le One Eye Club.
Nous allons toujours parler de BD. J'espère que vous avez apprécié notre invité de la semaine dernière.
Oui, parce qu'en fait, on ne lui a pas dit, mais a priori, il va peut-être devenir une sorte de personnage récurrent. Ce ne sera pas qu'un sidekick comme moi, quoi. Ça va être un...
Ah non, je parlais de Fabrice Sapolsky pour l'interview.
Pas
d'il y a 15 jours.
Moi, je parlais de Papinaz, moi.
Mais non, c'était il y a 15 jours. Ben... Oh, le flan. Mais ce n'est pas grave, vu que nous sommes en train de parler de Flan, nous allons parler de Flamby, la chasseuse de vampires.
Ah ouais, alors...
Buffy, pardon.
Buffy, la chasseuse de vampires. Alors tout de suite, je commence par une sorte de mea culpa.
C'est le tome 8 et c'est la fin de la saison 8.
Ouais. Peut-être.
Ouais, enfin la fin de la saison.
C'est la fin de la saison.
D'après la série.
Et donc depuis plus d'un an... C'est la fin de la saison 8, c'est ça. J'ai vomi dessus. J'ai craché sur Buffy.
Sur les 7 précédents tomes.
Ouais.
Sauf Fred, étaient... t'avais trouvé pas trop mal.
Ouais, Fred était pas mal. Mais il était pas dans la saison 8.
Non, c'était à part.
C'était à part. Donc, c'était à vomir. Et ben là, ce tome 8 m'a réconcilié avec Buffy.
Est-ce que t'aimais la série déjà à la base?
Alors, la série, il y a eu des bons moments, il y a eu des très bons moments, il y a eu des mauvais moments, et il y a eu des très mauvais moments.
Enfin, sur 7 ans, c'est logique.
C'est logique. Mais voilà, il y a eu des bonnes choses, des choses vraiment qui m'ont plu, où je me suis régalé.
La première saison, par exemple, n'était pas fantastique de Buffy.
Voilà, après, ça devient vraiment pas mal. Après, il y a surtout des épisodes qui sont, je trouve, il y a des épisodes qui sont excellents parce qu'ils ont trouvé des idées scénaristiques qui sont top.
Et qui collaient avec l'intrigue.
L'épisode où ils perdent la voix.
Oui.
Ah, l'épisode où ils font tout en chanson.
Oui, aussi. Et comme dans les comédies musicales, où comme ils chantent leurs états d'esprit, mais sauf que là, ils s'en souviennent après.
Ouais.
Enfin bon, c'était très très fort. Oui, non,
voilà.
Buffy...
Donc il y a eu des vraiment très bonnes choses.
Je pense que sans Buffy, nous n'aurions jamais eu Glee, tu vois.
C'est pas sûr. Donc, ce tome 8, donc, c'est la fin de notre saison. Ça y est.
C'est scénarisé par Joss Whedon, qui est le créateur de Buffy.
Ah bon?
Par Jen Espenson, qui est une des co-scénaristes de la série Buffy. Et par Scott Ellie, qui est je ne sais pas qui.
C'est bien, t'as bien réparé ton truc, dis donc. Ah et ouais. Au dessin, on a George Chanty.
Et... pour quasiment tout, et sauf le dernier petit truc qui est fait par Carl Moline,
Moline, qui
était le dessinateur de Frey. Et George Chanty qui a fait toute la série. On a déjà une continuité sur tout le truc. Et donc oui, quand on a parlé du volume 7 la dernière fois, je me souviens, tu as été très, très, très médisant.
Bah oui, parce qu'en fait, ça y est, le grand méchant, c'était Angel. On arrivait avec un truc tout pourri. C'était, voilà, il fallait qu'ils s'aiment. En fait, ils devenaient des super machins.
Oui,
Et le monde entier allait s'effondrer.
C'était un peu lourd. Et puis surtout, ça faisait 7 numéros pour en arriver là. Ça...
ouais, beaucoup de bruit pour rien. Quoi.
Et puis ça avait perdu un peu de son fun. Du fun qu'il y a intrinsèquement dans Buffy. Normalement, il doit y avoir du fun aussi.
Et bien là, il y était.
Oui. Parce qu'il y a Spike qui revient.
Il y a Spike. S'il y a Spike, déjà, c'est une bonne histoire.
Et Spike qui revient avec des sortes d'extraterrestres.
Cafards.
Des cafards.
Une sorte de cafards dans
qui détruisent un vaisseau spatial. Et là, tu dis, ça y est, on a retrouvé l'ambiance de Buffy qui arrive à nous traiter de sujets sérieux avec du gros n'importe quoi.
Ouais, mais c'est ça qu'on aime. Enfin, moi, c'est ça que j'aimais, quoi.
Voilà. Et on retrouve, et bien sûr, ils doivent sauver le monde hein, pour changer.
Et ils retournent à Sunnydale.
Qui est le début de tout. Et il retrouve le maître. Oula!
Et là, tu fais une séquence revival parce que tu fais Oh, mais c'était quelle saison, ça ?
C'était les années 90.
Et tiens, tu dis, c'était, je crois c'est que la c'est première. La première.
C'est la première. Le maître. Et on retrouve enfin le triangle amoureux entre Spike et Angel.
Oui.
Qui est aussi une des réussites de cette série. Faut
et
le dire.
Spike ressemble vraiment à Spike.
Dans le caractère.
Oui. C'est voilà. Trop bien. Voilà, c'est...
Donc, scénaristiquement, bah, on est dans du Buffy, du vrai. Bah, moi, ça me donne envie de voir la saison 9. Pour moi, l'impression que ça m'a donnée, c'est qu'ils n'ont pas su faire la transition d'une écriture de série télé à une écriture de BD.
C'est pas la même.
Déjà, je trouve que la saison a duré trop longtemps pour une saison de BD.
Oui.
Ça, c'est mon point de vue. Et ensuite, qui partaient trop dans tous les sens, qui se sont perdus en cours de route. Là, ils ont retrouvé le ton, ils ont trouvé un ton qui colle à la BD qu'ils avaient perdu. Qu'as-tu mis pour le scénario ?
Buffyien.
Whedonesque. Ouais ! C'est dur de se taper dans les mains à distance avec les micros qui nous gênent. Et pour le dessin ?
Égal.
Correct. C'est... Ouais, George N.T. est un dessinateur correct, mais pas exceptionnel.
Et puis surtout, c'est là, tu restes dans la même qualité de dessin que tu avais avant.
Le seul truc que je trouve appréciable, c'est que, voilà, c'est que ce soit un dessinateur qui ait réussi à faire toute la continuité. Autre truc qui est bien, c'est que je trouve que le statu quo pour la prochaine saison, entre guillemets, annonce quelque chose qui va revenir sur un peu des bases. Ce que je te disais, ils ont voulu en faire trop dans la BD. Et là, je pense qu'ils vont revenir sur quelque chose d'un peu plus léger au niveau du scénario. Un peu moins robot géant, dieu géant, machin chose. Et que ça va mieux passer.
Ce sera la dernière ou pas, la saison 9 ?
Bah, je pense que là, au niveau de la BD, tant que ça marche, ils vont continuer. Hein. Ouais. Mais j'espère qu'elle fera moins d'épisodes. Quoi. La moitié serait bien.
Oui. 4 tomes, ce serait sympa. Ouais. Et nous passons donc à la fin.
Une autre fin.
Une autre fin.
C'est l'épisode de la fin.
Ah ouais.
Scott Pilgrim, numéro 6.
Je sais pas si l'histoire sans fin, parce que celui-là, ça va continuer, je pense.
Finest Hour. Ah, Brian Lee O'Malley.
Chez Milady.
Et c'est la fin.
C'est fini.
Et waouh, quoi.
Et ben ouais.
Qu'est-ce que tu pensais de cette fin? T'as eu des moments de doute hein, dans la lecture de Scott Pilgrim, surtout au début.
J'ai eu des moments de doute au début. Après, je me suis vachement emballé. Et je me suis un peu moins emballé sur le tome 5.
Qui revenait un peu plus. Moi, je trouvais ça sympa sur le côté intime et les caractères des personnages.
Là,
mais il y a un côté dépressif dans le tome 5 qui était peut-être pas.
Ouais, j'étais peut-être pas au top à ce moment-là.
Où... Non, je parlais pas de toi, je parlais du livre.
Non, mais je dis, j'étais pas au top en adéquation avec le livre à ce moment-là, c'est ça que je veux dire. Là, on est, voilà, Scott se pose plein de questions.
Et il a décidé de trouver les réponses surtout.
Parce que elle est partie. Et le chat, Gideon, est parti aussi.
Oui.
Encore une histoire de chat.
Oui, de chat.
On va aller faire pipi.
Mais c'est bon, faut pas nous en faire un running gag non plus.
On pourrait. Et donc là, on va arriver à l'affrontement final entre Gideon et Scott.
Et
Gideon, en fait, qui lui propose, qui lui dit, mais viens vers moi, je serai ton père. Tu vas être le nouvel ex de Ramona.
Il lui dit plus clairement, mais elle t'a largué. Tu es un ex. Mais deviens maléfique. Et avec toute cette galerie de personnages qui sont tous plus hallucinants les uns que les autres, où tu découvres un peu leur vie. Et puis surtout, Scott grandit, ça y est, Scott est adulte.
Un peu plus.
Scott prend des décisions.
Oui, il a pris des décisions, mais enfin, il est un peu plus adulte.
Graphiquement, Brian Lee O'Malley a fait un progrès entre le tome 1 et ce tome-là. Que je trouve génial. Je trouve le style graphique super sympa. La façon qu'il a de raconter, de mettre en page, il arrive à te passer d'un passage intimiste à un truc d'action hyper mangaesque où ça explose dans tous les sens.
Voilà. Jeu vidéo.
En plus, on voit qu'il a préparé le terrain pour beaucoup de choses. Parce qu'il y a des éléments mais qui apparaissent, mais des tomes avant qui reviennent. C'est là qu'on voit que dans son écriture, il est malin, parce que dans les premiers tomes, il disait « Non, mais il va se passer ça, je t'en parlerai dans le tome suivant. » Et là, il arrive à la fin, il y a des trucs qui sont passés dans le tome avant. Enfin, ça rebondit dans tous les sens. On voit que je sais pas s'il avait écrit tout en détail son histoire, mais qu'il savait à peu près où il allait, et qu'il s'amusait à faire des recoupements dans tous les sens. Très très sympa. Et puis Gideon, il est méchant.
Ben Gideon, il fait penser à Ken le survivant, moi, des moments.
Ouais, il y
Sur la
a.
fin, t'as les scènes où tu vois, voilà, c'est. Attends, je te la montre.
Tu es mort, mais tu ne sais pas encore. Ouais.
Ah,
Ah
c'est
oui.
Ken!
Bah, ça part un peu en vrille, hein. C'est le combat final contre le gros méchant. Ils arrivent dans le monde, comment il s'appelle, l'interespace là.
Ouais.
Il y a un lien terrible, tu découvres ce qu'est l'interespace, tu découvres beaucoup de choses, et t'as un final qui tu fais. Ah, c'était une bonne fin.
Oui, parce que Ramona gagne le pouvoir de l'amour.
Oui, entre autres. Enfin bon, il n'y
Et qui
avait pas que
soigne ses
ça.
blessures.
Il n'y a pas que ça, mais c'est beau. Scott Pilgrim est une réussite. Lisez Scott Pilgrim, il n'y a que 6 tomes et c'est même pas trop cher. Ça doit coûter 6 ou 7 euros, non, c'est ça?
6,99.
Voilà. Et
Ça peut être
puis.
déconcertant, c'est un peu complètement
Les
barré par
premiers
endroits.
tomes sont très déconcertants, mais une fois qu'on est rentré dans le trip, c'est super.
Faudra quand même que je voie le film.
Ouais, moi aussi. Face à toute cette légèreté.
Nous passons à un truc un peu plus lourd, un peu plus sanguinolent, quoi. Un peu plus dans les tripes, quoi.
Scalped, tome 3.
Qui s'appelle Mère morte. Par Jason
Enfin,
Aaron et RM Guerra, toujours.
alors que on a quand même vu son cadavre à la fin du premier tome, l'enquête sur la mort de la mère du héros arrive. Pour rappel, notre héros, qui se nomme, je suis nul en prénom,
Dark Horse.
Dark Horse, voilà. En plus, c'est facile, c'est le nom d'un éditeur de BD.
Ouais, ça c'est. Enfin bon, moi, non, je veux pas te faire de mal.
Notre héros, donc,
On l'appelle Dash aussi. Hein.
est un agent infiltré du FBI.
Qui travaille dans la police indienne.
Voilà.
Pour Red Crow.
Le chef du casino local, enfin le chef local,
Chef de la mafia
un peu
locale.
mafieux sur les bords, et qui avait un lourd passif avec la mère de Red Crow,
Non. De Dash.
de Dash, qui était en fait une militante pour les droits des Indiens, etc. Et lui, c'est surtout un militant pour les droits de ses sous. Sauf que le flic qui a mis Dash sur l'affaire est un gros flic bien ripou qui veut surtout se venger, en fait. Il n'a aucune intention de justice. Lui, ce qu'il veut, c'est faire tomber Red Crow, quels que soient les moyens. Et pour ça, il a en plus infiltré une autre personne qui est un branleur dangereux. J'ai bien résumé le personnage?
T'as bien résumé le personnage.
Un petit con très dangereux parce qu'il fait n'importe quoi, il n'hésite pas à tuer, etc. Et donc, la mère de Dark Horse est morte, on a trouvé son corps, tout le monde croit que Red Crow est pour quelque chose.
Oui.
Alors que non.
Que même lui veut savoir en fait
Même
qui
lui
est.
veut savoir. Il ne met pas Dark Horse sur la piste parce que c'est Bad Horse.
Bad?
Je crois. Enfin bon, il ne met pas Horse sur la piste.
Bad Horse?
Merci.
Excuse-moi.
J'aurais reconnu
Dashiel?
si c'était un
Ouais, en même temps, tu ne sors
nom
plus
de
rien,
visiteur.
frère. Hein. C'est Dashiel Bad Horse. Excuse-moi, j'ai Dark Horse en tête, tu vois.
Donc, Bad Horse, lui, doit enquêter sur une autre affaire, sur une femme qui a été
Tué dans
tuée
un bordel.
dans un bordel. Par apparemment.
Et donc,
Très rapidement, la piste va d'ailleurs sur l'autre gars infiltré qui est un con.
Oui, une sorte de gros dangereux, quoi.
Voilà. Et à côté de ça, il doit gérer la vie des mômes de cette fille qui en gros veulent se venger et le
Et qui
fait.
avait combien, 3 ou 4 clés de main, quoi.
Voilà. Et surtout sur le fait qu'il n'a pas envie de s'occuper de l'affaire de sa mère parce qu'il était en froid avec sa mère.
Et que Red Crow en fait va même contacter un ancien flic indien qui a été un
Qui avait
peu
été viré dans les premiers tomes, il me semble.
qui a, bah pas qui a été viré, qui était en arrêt maladie quoi, il s'est fait tirer dessus quoi, enfin il
Oui.
s'est fait presque tuer,
Oui.
falls down et
Qui est le mec droit?
ouais, et donc lui il lui demande d'enquêter sur la mort de la mère de
Et
Dash.
ensuite, en fait, c'est deux enquêtes en parallèle qui sont sur les mêmes thématiques, sur la mort de la mère et les réactions des personnages. Badors devient presque sympathique.
Il est humain.
Ouais, c'était un connard dans les premiers tomes. Et là, d'un coup, il devient humain. L'enquête est prenante et très très bien écrite. On n'est pas paumé avec tous ces 40... Enfin, on se perd pas avec les 50 personnages qu'il y a, parce qu'il commence à y en avoir quand même quelques-uns. Ils sont tous très très bien définis. Et c'est un plaisir à lire. Je me suis éclaté. Toi de même?
Ouais. Non, là, franchement, ça a commencé à prendre une... T'avais une petite tournure mystique sur le tome 2,
Ouais.
qui a été un peu oubliée, parce que là, on est revenu vraiment à l'enquête policière.
Qui revient un petit peu, mais
Qui
de façon
revient un
très
petit peu,
légère.
ouais, c'est léger. Mais c'est surtout, c'est l'enquête policière fait que tu vas trouver l'humanité dans tous les personnages.
Au niveau du dessin, on a toujours RM Guerra qui fait les arcs principaux, et puis on a deux dessinateurs invités pour des histoires indépendantes, qui sont John Paul Leon
Yep.
et David Fourneau.
David et Fourneau.
Dans des styles qui sont très raccord avec le style de l'auteur, mais avec légèrement
Ils sont,
différent.
enfin, ils sont tellement raccord que tu peux même le lire en entier sans t'en apercevoir, quoi.
Moi, je sais que bon, John Paul Leon, j'aime beaucoup comme auteur, donc j'avais repéré quand même la différence. Tu le vois quand même sur la façon dont ils
Sur
font les personnages.
non, sur sur Falls Down, l'épisode avec Falls Down, moi je trouve que t'as moins d'écart.
Bref, bah, on a aimé quoi.
On a aimé.
On
J'ai
vous le
aimé.
recommande. Ça coûte combien? C'est chez Panini.
17 euros.
C'est du Vertigo et on ne sait pas par qui sera traduit dans le futur.
Mais franchement, ça gagne en puissance. C'est un peu assez intéressant.
Ouais.
Et puis
Oui,
les couves
c'est
des.
Jock au coup, mais c'est
Ouais.
superbe.
Il y a des couves, à mon avis, qui vaudraient le détour en belles affiches, quoi.
Ah oui, ce serait de belles affiches.
Et nous passons donc à notre bal des damnés du soir. The Goon, tome 8. D'Eric Powell chez Delcourt.
Toujours avec les superbes couleurs de Dave Stewart,
Ouais.
qui n'est pas musicien.
Et donc aux éditions Dark Horse
En
en
VO.
VO. Voilà. Et là, déception pour moi.
Qui The Goon?
The Goon, c'est un point.
The
Un point
Goon,
qui casse la bouche à tous les zombies de la
c'est le
création.
chef de la mafia locale. Enfin, il se faisait passer pour l'homme de main de la mafia locale, du chef de la mafia locale, mais en fait, on sait que c'est le chef. Et en gros, il doit se battre contre l'ancien,
Labradio.
qui était l'ancien chef de la mafia,
Qu'on pensait mort, mais qui est revenu.
en zombie.
Ouais.
Et qui a pris le grand méchant, l'ancien grand méchant, qui était le prêtre zombie vaudou, pour en faire son homme de main, dont il se moque.
Et là, dernièrement, ils ont tué la mère du barman.
Et il n'est pas content, ils veulent se venger.
Voilà.
C'est cette petite guerre interne.
Et donc cet épisode de The Goon, pour moi, a été une déception.
Ouais.
Parce que, bah, pas intéressant. Moi, je trouve ça manquait d'intérêt.
Bon, déjà, il y a deux parties.
Non,
Faut
mais
dire.
justement, non, mais on parle de The Goon. Après, on parlera de la partie de Buzard.
D'accord. Parce qu'en gros, il y a une mini-série sur Buzard qui a été inclue dans ce tome en VF.
Donc VO, enfin VF, The Goon, déception. Je trouve que l'histoire n'est pas intéressante. T'as pas d'avancée. Ouais, The Goon a une destinée, quoi. Ok. Il faut qu'il fasse des choix dans sa vie. Ok. Buzard lui dit.
Voilà,
Et puis
il va
finalement,
pour s'en aller, mais on ne
il
sait
va
pas
tout se casser, il
trop.
revient, il leur casse la bouche et
Ouais, t'as été
l'épisode
déçu.
n'amène rien, mais rien.
Même pas le fun. Ouais, il y a Frankie qui fait rien de fun. Ah
Non.
si, si! Quand il
Rien de fun.
explique au môme.
Oui, sur le chat, ouais, ça, il y a une page.
Non, pas sur le chat, sur le gars bizarre qu'ils ont trouvé. Ils trouvent une
Oui.
sorte de mongol bizarre dans la rue et ils. Hey, regarde, c'est marrant, quand j'ai des pétards dans les pieds,
Il
les enfants,
danse.
vous devrez. Ils dansent, les enfants, vous devriez avoir honte, vous n'avez même pas essayé de lui en mettre dans les narines. Voilà,
Ouais, voilà,
c'est.
c'était le seul truc qui était marrant, quoi.
Voilà. Mais il y a la deuxième partie avec Buzard, qui nous raconte une aventure et un peu les origines, enfin, non pas vraiment les origines, mais une aventure de Buzard dans sa quête.
Si, enfin, c'est une aventure de Buzard, mais ça te raconte l'origine de Buzard aussi.
Oui.
Et ça, par contre, je me suis régalé.
Et donc, qui est Buzard?
Ben, c'est un oiseau.
Tu crois que s'ils l'ont appelé le bal des damnés, c'est parce qu'ils parlent de Buzard? Le bal Buzard?
C'est.
Ouais. Donc, ouh!
Alors, donc le Buzard, ben, c'est un personnage qui est mort et qui en fait va incarner la mort. Parce qu'il est tellement damné qu'il ne peut pas mourir. Il est
D'accord.
immortel. Et donc il va chercher en fait toutes les aventures où il va pouvoir mourir.
Et il a du mal.
Il a du mal.
Et là, il est sur une piste.
Parce qu'il y a soi-disant une créature qui arrive à tuer, qui a tout tué.
Et il va pour l'affronter. Et on le suit ça et son parcours en parallèle avec un jeune enfant
qui l'a recueilli,
qui veut se venger des méchants. Et c'est vrai que c'est bien, mais c'est joli.
C'est joli, c'est bien, ça a une bonne histoire. C'est, voilà. Ça, c'était intéressant. Je me suis bien régalé là-dessus.
Ouais.
Bon, la meuf qui ressemble à la princesse Leia, par contre, je pense qu'il y a un petit clin d'œil.
Mais la meuf qui ressemble à la princesse Leia, esclave de Jabba.
Oui.
Parce que c'est ça qui est important. C'est esclave de Jabba qui est important.
Bah, elle ressemble à... voilà.
Oui, bah, moi, j'ai trouvé ce tome de The Goon sympathique. Mais c'est vrai que ça a perdu un peu de sa... Et j'ai plus la surprise des premiers tomes, en fait. Donc je suis un petit peu déçu. Ça me plaît toujours, hein, mais c'est pas lu. Je suis plus autant à faire waouh, trop bien, trop fun, trop cool. Voilà.
Non, ça a perdu de sa puissance, je trouve. Faudra voir, peut-être que quand on va revenir un peu plus près de l'histoire de The Goon, peut-être que ça va un petit peu repartir. Mais là, je trouve ça un peu décevant.
Il se fatigue peut-être un peu. Il avait de bonnes idées sur le départ. Il continue peut-être aussi parce que. Il faudrait peut-être qu'il parte sur d'autres histoires, sur autre chose.
La série peut pas, enfin entre guillemets, oui. N'a pas de fin, quoi.
Ouais.
Elle s'arrête le jour où il décide de se dire bon ben voilà, The Goon, il continue son histoire, mais je la raconte plus.
Oui, mais c'est vrai que c'est toujours difficile quand t'as un truc qui se vend de t'arrêter.
C'est pas faux. Et du coup, quand on parle de trucs qui se vendent
et de trucs qui s'arrêtent,
c'est comme l'internet. Hein, on peut essayer de passer par exemple un an sans internet. Comme... C'est le journal d'une expérience, donc c'est l'expérience de Ced. C'est aux éditions Macaca. Et ouais. C'est 14,90.
Ouais, c'est un tome qui fait penser au format des éditions Shampoing.
Ouais.
Pour ceux qui veulent savoir. Ced est un blogueur talentueux. J'aime bien ce qu'il fait. On avait déjà parlé des Contes à dormir debout qu'il avait écrit, qui était assez sympathique. Et il s'est lancé dans un projet de BD qui allait raconter un an sans Internet. Je ne pense pas qu'il ait vécu un an sans Internet en vrai.
C'est pas possible.
Non, c'est pas possible. C'est pas humain. Mais en tout cas, il raconte ce que serait devenu sa vie s'il avait dû participer à un an sans Internet pour participer à une expérience, pour aider une entreprise qui a trop de sous à en perdre.
Ouais. Il a une carte gold illimitée.
Pour acheter tout ce qu'il veut, mais pas Internet. Et là, s'enchaînent différents chapitres qui sont des réflexions sur notre l'apport de la machine dans notre vie quotidienne. Et pourquoi est-ce que ça nous apporte cette addiction ? Et c'est drôle, parce que c'est plein de réflexions débiles. Je trouve que celle a une sorte d'humour à froid, assez sympa. Il vient de sortir des répliques. C'est un côté un peu naïf dans la façon dont il donne les répliques. J'aime bien.
Ouais, mais du coup, ces répliques-là, elles sont un peu cinglantes des fois. Voilà. Parce que, du coup, tu te reconnais quand même.
Voilà. Et le truc, c'est que... C'est toujours pour rigoler, mais tu sens qu'il y a un fond pas rigolo, parce que tu te rends compte qu'effectivement on est un peu piégé et prisonnier, et qu'il y a des comportements, des façons de faire sur Internet qui sont un peu ridicules, mais qu'on fait quand même. Je trouve qu'il y a une sous les dehors d'un bouquin très léger et très rigolo sur hey, on va dire qu'on a un nom sur Internet, c'est rigolo, ouh, je peux plus aller sur Facebook, ah, mais j'ai plus d'amis. Voilà, tu te rends compte que c'est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a un dessin très cartoony, très gros nez,
ouais.
Très léger, très.
Bah, c'est un dessin de blog, quoi.
Ouais, même
si,
pas. Ouais.
Si, dans le sens, c'est des dessins que tu peux retrouver sur beaucoup de blogs.
J'ai beaucoup aimé les ouvertures de chapitres, qui sont des objets mis de façon à ce qu'ils nous fassent penser à un truc de l'Internet. Mais fait avec des vrais objets de la vraie vie, parce qu'en fait, Internet lui manque tellement qu'il utilise des vrais objets de la vraie vie pour faire comme s'il avait Internet.
C'est trop fort.
Voilà. Et puis ça nous met aussi face à nos faiblesses, à la facilité qu'on a dans notre vie moderne de faire certaines choses. Parce qu'au final, il ne va pas non plus dire « Ah bah, je me suis rendu compte qu'en fait c'était mal et qu'il faut que je fasse autre chose. » Et bah non, c'est « Je me suis rendu compte qu'en fait c'était mal, mais c'est pas grave. » C'est quand même la conclusion.
C'est ça. Et puis on a une super photo de lui.
Oui.
Ça c'est du courage.
C'est du courage. Du courage.
C'est du courage. C'est vraiment du courage parce qu'il a montré quand même qu'il avait.
Faut pas dire ça. Je pense qu'il faut que les gens l'achètent pour voir cette photo.
Ouais, mais quelque part, je trouve que c'est bien d'avoir des amis. Surtout sa meilleure amie.
Oui. Oui, ça m'éliore.
Et bon. Tout de suite, alors un auteur dont on a déjà parlé.
Oui, on a déjà parlé
de Kara Skoet.
On a déjà parlé de Kara Skoet.
Jolies ténèbres.
Ah, c'était, c'est vrai.
Pour une fois que je te ressors un titre avec avec le, enfin les dessinateurs.
Ouais, ouais, ça va. Ah, et scénariste.
Hubert.
Et ben.
Là, par contre, j'ai pas.
Ben, les yeux verts. Ça te dit rien, les yeux verts?
On n'en a pas
parlé. Non. Mais c'est une série qui s'est arrêtée. C'est un coloriste aussi, Hubert, il faut savoir. Et un scénariste assez talentueux. Qui s'appelle? Bon, la BD, on n'a pas dit le nom encore.
Ah, pardon. Beauté.
Beauté.
Et ben, Désir exaucé.
Qui est un conte de fées.
Oui. Qui commence comme un conte de fées. Hein.
Oui, qui se poursuit un peu comme. Avec les côtés moraux, on va dire, entre guillemets.
Ouais.
C'est l'histoire de morue.
Morue, qui sent la morue.
Elle sent le poisson parce qu'en fait, elle travaille chez le poissonnier et qu'elle pue le poisson tout le temps. Elle peut se laver tout ce qu'elle veut, sans le poisson. Puis en plus,
elle est moche.
Ah oui, c'est super sympa. Vous l'avez entendu en stéréo dans vos oreilles. Elle est super moche. Mais bon, et puis en fait, il y a un autre truc. Elle est bête.
Oui.
Elle est pas très maligne. Hein. On peut pas dire qu'elle soit vraiment intelligente. Elle n'a pas. En fait, elle a pas vraiment de qualité. C'est, tu sais, dans tous les contes de fées, le héros, il a plein de gros défauts, mais en fait, il est toujours malin.
Ouais,
fait.
Il est toujours malin.
Et là, bah non. Mais donc, elle va aider une petite fée qui va lui donner un don. Et comme la petite fée peut pas la rendre belle, elle va la rendre belle dans les yeux des autres. Comme ça, elle sera belle dans le regard des autres. Et tout le monde la voit comme, que, comme une femme superbe et désirable. Un peu trop. Et là, tout le reste de l'aventure nous raconte un peu les... Comment dire ? Les mésaventures qui vont arriver à une femme qui est trop belle et que tout le monde désire ou jalouse.
Ben, elle va trouver un prince, mais le prince, comme elle va en plus commencer à se montrer de plus en plus...
Exigeante ?
Exigeante, difficile, capricieuse, tyrannique, tout ce que tu veux, quoi. Ben, le prince va partir dans une quête... irréalisable.
Oui.
Et du coup, bah, on va aller de mal en pis, quoi.
C'est, alors, on est dans un conte de fées, donc c'est une série de mésaventures. C'est un peu difficile de raconter sans révéler trop de l'histoire. On va vite revenir sur le côté graphique. Qu'est-ce que tu dirais graphiquement ?
Simple.
Nostalgique.
Moi, ça m'a fait, enfin, simple dans le sens, ça m'a fait penser à. Du coup, je reviens sur la nostalgie, peut-être. Simple, La Belle au bois dormant, Cendrillon.
Tu te souviens de ces vieux livres de contes, ouais. Avec tous ces tons un peu sépia, dans les couleurs très simples, avec tu sais, les couleurs qu'on aimait dans les années 80, le orange, le kaki et le jaune. On retrouve un peu toutes ces teintes, toutes ces façons de dessiner que je trouve très, 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 très jolies. Ça m'a remis dans ces vieux contes, sauf que c'est le scénario...
Il fait grincer des dents, je trouve.
Il fait grincer des dents, ouais.
Je me pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir... Un... Bon, donc Kara Skoet, je ne connais pas tout, hein, mais donc attends, on a quoi ? On a eu Jolies Ténèbres.
Ouais. Après, il y a des choses qu'ils ont fait chacun de leur côté. Hein.
Ouais, après, voilà, tu vois, il a fait Miss Patouche, et il a fait BD Jazz sur Anita O'Day, et Un Donjon Crépuscule avec Sarah Trondheim.
Ouais.
Bon. J'ai pas de chance, mais je me dis, pour l'instant, j'ai pas lu une histoire de Kara Skoet qui est heureuse. Ça. Jolies Ténèbres était quand même, je trouve, très dérangeant.
Ouais, enfin, c'est pas eux l'histoire, hein, c'est le dessin. Enfin, ils choisissent aussi peut-être les histoires.
Ouais, voilà, mais justement, enfin, est-ce que... Parce que le dessin, je l'aime beaucoup, c'est
truc... toujours varié, hein. C'est pas des styles graphiques. Ce que j'aime, moi, c'est qu'ils sont capables de changer de style graphique en fonction de l'histoire.
Oui.
Tu ne peux pas dire que Beauté est dans le même style que Jolies Ténèbres.
Ah, pas
du tout. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Bah, Jolies Ténèbres était, je trouve, beaucoup plus fin dans le dessin. Quoi. Il y avait.
Plus de variété en plus avec les différents personnages.
Ouais.
Ce qui est surprenant, c'est que c'était un tome 1, donc il y a une suite de prévues. Moi, j'ai trouvé la BD très sympa. La suite est en prépublication dans Spirou, enfin, était en prépublication dans Spirou il y a quelques mois. Je suis curieux de lire la suite, de savoir ce qui va se passer, parce que j'ai trouvé que c'était un bon album. Je suis aussi surpris de voir que ça passe dans Spirou. Il y a quand même de la nudité dans cet album. C'est ouais, léger, mais... c'est léger, hein, mais...
Bah ouais, mais du coup, quand même, tu te retrouves avec deux séries, Seul et, ouais. et Beauté dans Spirou, ça...
Spirou devient vraiment un magazine tout public et pas que enfant. Enfin, ça fait longtemps qu'il l'est, mais ça se démarque de plus en plus. Donc voilà, Beauté est un très très bon album. Moi, j'ai bien aimé, je suis curieux de lire la suite. C'est vraiment une très très bonne histoire sur ce que c'est que d'être beau, ce que c'est que d'être...
Puis on revient au vieux conte, ouais. On revient au conte avec une morale... Enfin,
une morale grinçante.
Une morale qui passe, et c'est pas blanc ou noir, quoi. C'est,
une c'est... vraie morale.
Tout en demi-teinte.
Enfin, une vraie morale, pas une morale... ouais, pas une morale de balle, quoi.
Et nous passons à notre intégrale.
Et alors là ?
Et alors là, et... Ça fait quand même déjà plusieurs fois, on a eu des invités qui nous en ont parlé. À chaque fois, j'étais là, je faisais « Oh, mais est-ce que c'est pareil que dans le film et tout ?» Parce que moi, je ne les ai jamais lus. Et enfin, j'ai lu Akira. Akira.
De Katsuhiro Otomo.
Je l'ai fait, ça y est, c'est fait par Glénat.
C'est chez Glénat, en 14 tomes, si vous, enfin 13 tomes, si vous voulez
tomes,
la couleur.
13 tomes, parce que
le 14e... Ouais, bon, on verra, on en parlera. Si vous, 13 tomes, si vous voulez la couleur, 6 si vous voulez le noir et blanc. Et en japonais, si vous voulez le sens de lecture original et les onomatopées originales.
Parce que un hélicoptère qui vole, ça fait.
Bouda 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 bouda. Exactement.
C'est en français, ça fait flop 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 flop.
Non, flop. Mais là, c'est en américain. Parlons de l'histoire.
Alors donc,
on est dans un truc fleuve. Hein. Alors... Donc, l'histoire en plusieurs étapes. On va parler du départ, du début. Bruno Bessadi nous avait résumé ça en nous disant c'est l'histoire d'un gamin vieux avec un 28 sur la main qui va se faire écraser par une moto. Il nous avait dit un truc dans le genre. Hein.
C'est ça, je crois, ouais. Ouais.
Ouais. Les ayant relu il n'y a pas longtemps, je ne peux pas lui donner tort, mais ce n'est pas exactement ça.
C'est un peu plus complexe.
On a une bande de jeunes cons.
Jeunes lycéens qui font ouais, toutes les
ans,
ouais,
genre,
toutes les conneries possibles imaginables, la moto, drogue,
ouais.
La drogue, la vitesse, sexe, drogue, rock'n'roll.
Le chef c'est Keneda.
Ouais, parce que c'est lui qui a la plus belle moto.
Voilà, et parce que c'est lui qui se la pète le plus. Puis voilà, qui a pris sous sa défense le petit le jeune Tetsuo qu'il aime bien, parce qu'il est un peu fragile, tu vois, par rapport aux autres.
Ils sont donc dans le Neo Tokyo.
Oui, parce qu'il y a eu une grosse apocalypse il y a quelques années.
Et donc, il y a toujours un quartier interdit.
Voilà. Mais sur lequel ils vont construire le site pour les prochains Jeux Olympiques.
Ouais.
L'endroit où il y a eu l'explosion, une sorte d'explosion atomique.
Le nouveau stade.
Qu'avait le nouveau stade des Jeux Olympiques. Et donc, alors qu'ils sont en train de faire une poursuite en moto parce qu'ils sont emmerdés par un autre gang local. Voilà. Tetsuo manque d'écraser un enfant vieux, enfin, la progéria, quoi, en gros. Hein, on dirait qu'il a la progéria, qui a un 28 tatoué dans la main. Tu vois, on tombe sur... Et qui a apparemment des pouvoirs. Et il se retrouve au milieu du truc, parce qu'il y a le gouvernement qui essaie de retrouver ce môme, et il se retrouve coincé au milieu. Et en parallèle, il y a une sorte de résistance qui essaie de comprendre ce que fait le gouvernement. Et Keneda, parce qu'en gros, il commence à flasher sur une jeune fille qui travaille là-dedans, qui s'appelle Kay, Keneda commence à se retrouver un peu embrigadé dans le mouvement. Voilà pour la base. Je peux vous dire que Tetsuo va péter un peu les plombs et ça c'est la première partie. Deuxième partie, on va pas vous dire pourquoi mais on va vous dire ce qui va se passer parce qu'on est obligé, je veux dire sinon tu peux pas raconter Kira. Y a une sorte de grosse explosion qui fait que Neo Tokyo est ravagé
une nouvelle fois, pas de bol hein.
Et on passe dans une BD qui alors que c'était de l'anticipation arrive dans du post-apo. On est dans du post-apocalypse.
Ouais.
Les gens sont dans la merde.
Et là se créent de nouvelles religions.
Se créent de nouvelles religions et il y a des sortes de luttes pour ces religions-là autour. Maintenant, ça, c'est tout ce qui est en surface. Sur tous ces tomes-là, il se passe beaucoup de choses, on ne va pas le cacher. Ça va assez vite quand même, on est dans du manga. Ça a une fin assez rapide pour du manga en fin de compte. Hein.
Ouais.
Mais. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait un second sens caché à cette BD ? Une bande dessinée qui nous parle de l'adolescence, de l'acceptation des changements de soi. C'est vrai que les boutons de Tetsuo sont un petit peu effrayants.
Non, je dirais que c'est... Ouais, peut-être. Peut-être. Bah, disons que la fin, t'es clair quand même, je dirais, sur...
Bah, pareil, tu vois, on est un peu dans... Pareil que Scott Pilgrim, à la fin, ils prennent leur destin en main.
C'est ça.
ils deviennent adultes.
Ils font un choix.
Parce qu'il faut savoir quand même que c'est tous des petits cons. Je veux dire, Keneda...
Kay n'est pas une petite
Ken, conne. Kay, non, parce qu'elle, elle est impliquée politiquement. Elle est devenue adulte trop vite. Okay, c'est l'impression qu'elle donne. Keneda, il fait les choses, mais par pure provoque non-stop.
Parce que c'est un petit con.
Mais c'est vraiment un petit con. Attachant, parce que c'est le héros, on l'aime bien et tout, il est cool. On a tous rêvé d'être ce petit con-là quand on était ado.
Ouais, le mec qui se la pète.
Le mec qui se la pète, qui fait des conneries, mais c'est le chef, tout le monde l'aime bien et tout, tu vois. Mais ils prennent leurs responsabilités avec le temps, mais ils ont du mal à assumer le fait de devoir changer et d'évoluer.
Surtout,
la crise d'adolescence. Bon,
c'est résumé dans les grandes lignes, parce qu'il y a quand même aussi, après, il y a toute une sorte de prophétie qui rentre en compte.
Pour moi, c'est les thématiques qui m'ont semblé plus importantes dans cette BD.
Oui, mais cette thématique-là, elle te semble importante quand tu arrives à la fin. C'est quand rétrospectivement, tu revois
toute
l'histoire par rapport à cette fin. Parce que justement au milieu c'est toute la prophétie qui est intéressante.
Oui.
Avec finalement Akira qui va être la clé pour un choix ou pour un autre.
Et Akira qui est un personnage très important.
Qui est charismatique. Il a des discours qui tuent.
Bon, on va dire que c'est un personnage très effacé, mais qui est le personnage le plus important de la série entre guillemets. Quoique en fait les personnages importants c'est Tetsuo, Keneda et Kay, dans une moindre mesure, mais Kay aussi est importante.
Ouais.
Mais c'est surtout la relation d'amitié entre Tetsuo et Keneda qui a beaucoup, beaucoup d'importance sur le déroulement de l'histoire.
Et donc, au final.
Oui.
Au final, quand même, parce qu'il faut quand même. Voilà, on va pas non plus tout raconter l'histoire.
Hein, oui, oui.
Même si on a déjà quasiment tout raconté. Presque.
Voilà. Bon, oui, le scénario. On va dire ce qu'on pense du scénario, c'est ça, au final ?
Ouais.
Vas-y, dis-moi ce que tu as pensé du scénario.
Non, toi d'abord.
Ben, moi, j'ai trouvé que c'était une grande saga réussie.
Un mot ?
Ah, en un mot. Un mot sur Akira.
Attends, je t'ai pris au dépourvu sur le scénario.
Ouais. En un mot sur le scénario sur Akira. Ah ouais, non, mais là...
Il a pas fait son taf. Non, il a pas préparé. Ben moi, mon mot sur le scénario, c'était monumental.
Oh, ça va même avec le dessin.
Ouais, ben écoute, je suis... Voilà, c'est vrai que bon, là, j'avais jamais lu Akira, j'avais vu que le film... C'est clair que le film n'a absolument...
On reviendra un peu sur le film et les liens qu'il y a, parce que les gens connaissent souvent le film. Il vient de ressortir en Blu-ray, d'ailleurs, dans une superbe édition, super restaurée.
C'est peut-être pas plus mal. Voilà, j'avais vu que le film. Maintenant, j'ai lu Akira. Et ouais, Akira, ça n'a rien à voir, quoi.
Ça va plus loin.
Ça va beaucoup plus loin, quoi. C'est plus intense. T'as un scénario qui est super épais. T'y a tellement de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres.
Un peu complexe quand même, hein, tout le délire mystico bizarre de la fin. Hein.
Ouais, mais et encore ce délire mystico, t'as une compréhension qui se fait quand même.
Ouais, mais c'est pas évident. Il y a un point, par exemple, on en discutait, qui n'est pas expliqué. Il y a quelques points qui ne sont pas expliqués, ou en tout cas dont je n'ai pas trouvé l'explication, qui m'ont laissé un peu dans le vague.
C'était lequel ?
C'est Keneda quand il revient dans le monde post-apo. C'est, en fait, Keneda disparaît, d'un coup réapparaît, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc moi, ça m'a un peu choqué. J'ai une question en suspens. Je pense qu'en faisant une analyse super profonde du scénario, on peut avoir une explication. J'ai une idée de ce qui a pu se passer, mais c'est jamais expliqué, en fait. Et c'est un peu dommage. Le dessin. Monumental.
Ben ouais, tu arrives au même mot. Hein.
Alors, je pense que les assistants de Katsuhiro Otomo doivent le maudire. Katsuhiro Otomo aime beaucoup dessiner des grands immeubles. Avec toutes leurs petites fenêtres. Toutes. Mais toutes. Et puis des fois, il les fait se détruire. Alors, il y a des bouts de petites fenêtres qui partent dans tous les sens. Et ça s'écrase de partout. On a un dessin réaliste. On est dans un style, on va dire, manga, grands yeux, etc. Mais dans un style très réaliste. Dans le sens, surtout au niveau des décors. Les décors sont fouillés à un point énorme.
C'est super détaillé.
Les personnages sont plus simplifiés. Mais reste quand même assez réaliste pour du manga. On est loin. Enfin, c'est vraiment l'école opposée. Tu sais, quand on fait nos questions à la con, on oppose Toriyama et Otomo. On est vraiment dans une école opposée.
Ah oui, non, là c'est clair.
Il y a aussi un sens de la mise en page qui est génial. Par contre, ils sont tous gauchers.
Bizarrement.
En fait, l'édition française, pour moi, pose quelques soucis. Alors, elle a d'abord été parue en kiosque dans des petits fascicules. J'ai pas connu cette époque-là, c'était la première édition. Et c'était à l'époque où, tu sais, les BD dans le sens japonais, ça se faisait pas.
Bah non.
Puis, apparemment, il y a eu la version recueil gros album et la version couleur. Je ne sais pas laquelle arrive en premier, je ne connais pas bien l'histoire. Sauf que c'est remis dans le sens de lecture originale.
Non,
Européen.
européen.
Européen. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que les masters, c'est les masters américains. La version couleur, en fait, a été faite pour les États-Unis. Et les couleurs sont faites par Steve Olive. Steve Olive qui s'est très 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 fait connaître après, parce qu'il a un petit peu révolutionné la colorisation numérique. C'est lui qui a un peu lancé. En fait, c'est lui qui colorisait les premières séries images. Sauf que les premières séries images étaient très 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 flashy. Alors que là, il a un style beaucoup plus subtil. Les couleurs sont très 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 bien réussies, je trouve. Très adaptées. Elles ne gâchent pas le travail original de Otomo et de ses assistants. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. Et en plus, il a su se montrer parfois symbolique, c'est-à-dire utiliser une dominante colorée pour certaines scènes plutôt que de rentrer dans le détail. Il a su être assez simple quand il fallait. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le travail de couleur. Par contre,
Le travail de couleur, il voulait beaucoup quand même entre le premier et le 13. Hein.
oui, il a voulu beaucoup. Il a eu de quoi s'entraîner. Par contre, les onomatopées. On a les onomatopées américaines. Donc, ils ont viré les japonaises pour mettre les américaines. À la rigueur. Pourquoi pas? Sauf que quand il y a eu des problèmes de traduction d'onomatopée, je pense qu'on ne maîtrisait pas encore autant les outils numériques en France à l'époque. On a parfois les contours d'un texte anglais avec le texte français écrit à l'arrache dedans. C'est les traits à la main. Et c'est là aussi on voit qu'il y a un petit souci, je pense, selon moi, c'est que même si la traduction ne semble pas mauvaise, mais après je ne saurais pas dire, j'ai rien trouvé de choquant, c'est Stan Barrett qui l'a fait, Stan Barrett qui nous faisait les préfaces des Valérians, d'ailleurs, des intégrales Valérians, mais il a traduit de l'américain, il n'a pas traduit du japonais. Donc c'est une traduction d'une traduction.
Ouais.
Ce qui pour moi est un peu dommage. Je pense vraiment qu'Akira, la BD, mériterait une réédition dans le sens de lecture, parce qu'en plus je suis persuadé qu'il y a des adaptations pas forcément bien réussies dans la version des planches. J'ai l'impression que parfois ils ont juste décalé des cases, qu'il y a des champs contre champs qui sont foirés à cause de ça. C'est des impressions que j'ai eues. Et que ce monument de la BD japonaise, même si je suis très content de mon édition couleur, hein, mériterait une édition digne de ses origines, avec une retraduction et compagnie.
Ben voilà, Glénat, faut se mettre au boulot, hein.
Voilà. Alors, à noter le tome 13. Ah oui, à noter aussi la traduction en gros album de chez Glénat en couleur. C'est super, mais j'ai l'impression qu'il te coupe les épisodes en plein milieu pour passer d'un épisode à l'autre.
Ben disons qu'il faut avoir toute la collection pour tout lire d'un coup.
Oui, parce que le
Ce qu'on
problème,
a
c'est que quand
fait.
t'arrives. Ben, moi, non, la première fois, parce que les tomes.
Ah
J'avoue que
oui,
le
non, mais
12, 13,
enfin.
14, ils ont mis du temps à arriver. Hein.
Ben oui, sauf que moi, je les ai lus d'un coup. Donc forcément, c'est quand
Mais
même plus
le
facile.
problème, c'est que quand t'arrives à la fin d'un tome, ça s'arrête net, et j'ai l'impression que ça s'arrête pas sur une fin d'épisode.
C'est possible.
Et c'est un peu bizarre. Le tome 13 ne contient qu'assez peu de pages de BD, le reste, c'est de l'artbook. Des illustrations originales, des couvertures, des pages
Des
couleurs,
explications aussi.
des explications. Et le tome 14 n'est qu'un artbook. Donc si vous avez l'édition noir et blanc, je pense que ça vaut quand même le coup de s'acheter peut-être le tome 14 si vraiment vous avez bien aimé la BD, parce que ça fait un artbook pour pas trop cher en fin de compte.
Je dirais même aussi enfin, le tome 13. Ça qui est à la fin de l'histoire, mais
Ouais.
il y a aussi pas mal d'explications sur le choix, enfin, certains choix de couleurs, certains choix de représentation qui sont intéressants.
Ouais. Enfin voilà, donc Akira est un chef-d'œuvre de la bande dessinée japonaise. Je pense qu'il faut l'avoir lu. Ce qui est marrant, c'est que c'était publié dans Shonen Jump à la base. Pour moi, c'est pas du shonen, c'est du seinen. Je sais pas si t'es d'accord.
Je suis pas assez connaisseur.
Le shonen, c'est censé être le truc pour ados. Pour moi, c'est pas de la BD pour ados. C'est vraiment, on est dans des thèmes très adultes, très durs. Je veux dire, certains passages, souviens-toi du sort de Yamagata, sont super chauds. Le film a été fait par Otomo, mais alors que la BD n'était pas finie. Donc, bah, la fin n'est pas la même. Mais du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Le film reste très sympathique, surtout pour l'époque, parce que c'était quand même techniquement assez bluffant. C'était quand même les débuts du manga en France, hein, faut pas aussi le nier. De l'animation japonaise aussi, enfin.
Avec une bio qui est déchirée quand même.
Une BO qui déchirait, ouais, ça, on peut pas le nier. Le film est à voir, mais c'est vrai que c'est très très différent. Tout le final n'a rien à voir.
Bah surtout c'est que t'as presque l'impression que le film s'arrête en fait au tome quoi, au tome 2, 3.
En gros,
il suit la continuité jusqu'au tome
2. Et ensuite, ils te prennent des scènes des derniers tomes. Il y a des scènes des derniers tomes qui reviennent quand ils se battent à coups de satellites.
Ouais. Mais déjà, dès le tome 2, 3.
Enfin, voilà. Voilà, tu vois autre chose à rajouter sur ce monument,
ce chef-d'œuvre de la BD. Ben voilà, j'ai aucun regret d'avoir, on va dire, passé cette omission de ne pas avoir lu Akira. J'ai lu Akira et j'ai beaucoup aimé. Et c'est clair que je comprends que beaucoup de personnes le citent en référence parce que c'est quelque chose qui est complet, quoi. Ça se pose autant par le poids que par la qualité.
Meilleur du mieux. Alors, que choisis-tu ?
Sculpt. Et j'aurais presque été jusqu'à dire
Buffy.
Ça m'arrache la bouche, mais ouais. Buffy.
Waouh.
Je vous l'ai dit, c'est mea culpa. Tous les autres étaient pourris, mais celui-là, je me suis vraiment bien amusé.
Alors, pour ne pas dire Sculpt, j'aurais mis un an sans internet parce que ça m'a surpris de la profondeur de ce scénario et de cette réflexion sur quelque chose qui a l'air très très léger au premier abord. Voilà.
Ok.
Online.
De quoi vas-tu nous parler ?
Je vais vous parler du travail d'un certain Neo Yume. Neo Yume, alors c'est des petits sujets courts aujourd'hui en online.
Ah oui, oui.
Neo Yume en fait a fait quelque chose de très sympa, c'est un graphiste et il a fait son CV en BD façon comics.
Et ça déchire.
Il est génial. Donc allez voir son CV, il est super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé.
Si j'avais pu, je l'aurais embauché. Mais voilà, à l'école.
Ouais, à l'école, il n'y a pas les budgets.
Il n'y a pas le budget.
Voilà. Franchement, c'est très sympa. J'imagine qu'entre le temps où il a publié ce CV et le moment où on en parle, il a déjà dû être embauché. Enfin, j'espère.
Ou en tout cas, je l'espère pour lui.
Parce que franchement, il a fait un travail excellent, j'ai bien aimé. Autre petit sujet pour l'online, je vais vous parler de la BD dont vous êtes le scénariste. Pas le héros, le scénariste. C'est André Vaz, si je ne m'abuse, qui a lancé le projet. Il s'est mis à commencer à dessiner une planche et puis il a mis un choix multiple pour permettre aux gens de choisir la suite. Je trouvais le concept assez marrant. Graphiquement, en plus, il fait varier son style en cours de route. Ça manque un petit peu de cohérence et de continuité, mais... Surtout que le scénario part dans tous les sens et fait du gros n'importe quoi, parce que c'est le lecteur qui scénarise. Hein. Et des fois, ils te disent hey, on va dire qu'il se passe ça, et c'est n'importe quoi.
Oui, il te donne des choix quand même.
Hein. Oui, il donne des choix, oui, mais bon, dans les choix, il y a toujours une connerie. Quoi.
Oui, il te donne des choix, et forcément, les lecteurs, visiblement, choisissent le choix les plus.
Les plus à l'arrache. Mais bon, c'est bien marrant, je trouve le concept sympa, et je trouve ça pas mal dessiné, surtout quand il est passé à la couleur, un autre style, quand il a quitté son style. Au trait pour passer un style avec un ancrage numérique un peu plus poussé que j'ai trouvé assez sympathique, ça vaut le coup.
Ça rappelle un petit peu les livres dont vous êtes le héros.
Ouais, sauf que
vous choisissez. Bah si, tu choisis, c'est exactement ça. Tu es là, tu fais alors, vous ouvrez la porte, allez à la page.
Voilà, et donc on a un temps. Ouais, sauf que là on a un temps limité pour choisir parce qu'il ne dessine qu'une seule proposition.
Ah bah oui, oui.
Voilà. Voilà pour le online. On se retrouve dans 15 jours.
Yep.
Voilà, on va préparer la rentrée.
Oui,
ça va être dur. Hein.
Avec nos 38 semaines de travail, parce qu'on va travailler au mois de juillet maintenant.
Plains-toi, tu vas voir.
C'est ça, ouais.
Ouais.
Non, mais vous inquiétez pas, au fait, je vous lis tout de suite. A priori, je pense que de septembre à décembre 2011, ça va être une joie intense de syndicaliste.
Merci de nous avoir écouté. Hasta la siempre.
Hasta la siempre. Non, oui, hein, no pasarán.
No pasarán, voilà. Nous sommes toujours présents sur iTunes.
Sur Facebook.
Nous espérons que vous avez plein de commentaires géniaux sur iTunes depuis le temps. Sur Facebook. Les commentaires du blog sont toujours là pour que vous nous posiez plein de questions. Ça nous fait toujours plaisir. On tâche d'y répondre assez rapidement. Enfin, surtout moi. Et sur ce...
J'ai fait plus de posts en 3 mois que j'ai dû en faire dans toute ma vie.
C'est vrai, mais multiplier 0 par quelque chose.
Et surtout, n'oubliez pas de participer à notre grand concours de l'été et de regarder nos collections d'albums et de nous dire de quoi vous auriez envie que l'on parle.
Voilà. C'est le podcast dont vous êtes
le héros.
Le héros. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt dans 15 jours. Ciao.
Ciao.